kiamani, kazi ya vita kuharibu na kuua, kupanda chuki na kulipisha kisasi, na kuyarudisha maendeleo nyuma. Mazungumzo ndicho kiti cha amani, kimya na upendo ni sabuni ya roho.
L'information est un élément de connaissance. Alors, soyons des citoyens mieux informés. Radio Mandeléo, c'est l'heure du journal.
Auditrices, auditeurs de Radio Mandeléo, merci encore une fois de choisir Radio Mandeléo pour vous informer. Ce journal est présenté par Sosten Birale, mis en onde par Alain Zard. Sommaire de ce radio journal. Le coordonnateur humanitaire en République démocratique du Congo, Bruno Le Maki, condamne l'attaque armée attribuée au groupe ADF qui a fait 89 morts du côté de la population civile dans les territoires de Lubero au Nord-Kivu. Et le territoire d'Uvira paraît échapper progressivement au contrôle des autorités nationales. Ceci s'illustre par les protestations contre la nomination du général Olivier Gassita et son retour à Kinshasa. Et enfin, la campagne de vaccination contre la poliomyélite vient d'être lancée officiellement dans la province du Sud-Kivu. Les parents sont invités à accueillir les vaccinateurs qui passeront porte à porte pour administrer les vaccins aux enfants. Le détail de ce radio-journal. Le coordonnateur humanitaire en République démocratique du Congo, Bruno Le Maki, condamne l'attaque armée attribuée au groupe ADF qui a fait 420 morts du côté de la population civile dans les territoires de Lubero et de Beni dans la province du Nord-Kivu dans la nuit du lundi 8 septembre 2025. À en croire des sources concordantes, la première attaque a eu lieu dans le village d'Antoyo et à côté la vie à au moins 71 personnes. La seconde est menée dans le village des Fotodou, territoire de Beni, a fait 18 morts, ce qui fait un total de 89 civils tués dans la même nuit. Plus de détails avec Hélène Bougiriri.
Ces attaques s'ajoutent à celles commises par la coopérative pour le développement du Congo, CODECO, et les groupes Zaïr contre des civils dans la province de l'Ituri en juillet dernier. Les coordonnateurs humanitaires en RDC, Bruno Le Maki, condamne avec la plus grande fermeté ces attaques et rappelle à tous les acteurs armés que les civils ne sont pas des cibles et doivent être protégés. En termes de recherche et des solutions, le coordonnateur humanitaire a entrepris des concertations avec les autorités provinciales afin de renforcer la protection des civils et d'adapter la réponse aux besoins les plus urgents, ajoutent nos sources. Celui-ci affirme que les humanitaires restent mobilisés pour répondre aux besoins urgents des personnes affectées par ces violences récurrentes, mais la baisse des financements contraint de nombreux acteurs humanitaires à réduire leurs opérations essentielles, pourtant vitales. Depuis la mi-août, la communauté humanitaire dut observer une recrudescence des attaques des ADF qui ont fait au moins 140 morts et entraîné des déplacements massifs de la population. En ce début du dernier trimestre de l'année, les plans des réponses humanitaires 2025 pour la RDC, qui requièrent 2,6 milliards de dollars afin d'apporter une aide vitale à 11 millions de personnes, est financé seulement à hauteur de 15%.
Le territoire d'Uvira paraît échapper progressivement au contrôle des autorités nationales. Ceci s'illustre et par les protestations contre la nomination du général Olivier Gassita, chargé des opérations et renseignements à la 33e région militaire. Et c'est ce que pense Henri Pacifique Mayala, chercheur à Ebouteli, un institut congolais spécialisé dans les questions des conflits et de gouvernance. À ceci s'ajoute le défi d'ouvrir un couloir humanitaire et pourtant validé par le gouvernement provincial et la FCM-23 depuis un bon moment. Notre source indique que malgré les efforts fournis des parts et d'autres pour faciliter l'aide aux populations vulnérables, certaines structures de la société civile et proches des leaders locaux ont rejeté cette mesure, attisant encore les tensions. Ainsi précise-t-il, s'opposer systématiquement aux décisions nationales ou provinciales et tout en stigmatisant une partie de la population montre qu'Uvira échappe de plus en plus à l'autorité effective du gouvernement, ce qui est mauvais signe pour la paix dans la région, explique Henri Pacifique Mayala.
Vous remarquerez avec nous que le territoire d'Uvira est en train d'échapper au contrôle du gouvernement. Cela peut s'illustrer non pas seulement par les récents événements de protestation, déploiement ou à la nomination du général Gassita, mais un peu plus loin, on se souviendra que le gouverneur a autorisé l'ouverture d'un couloir humanitaire afin de permettre aux agents humanitaires de se mouvoir dans cette partie de la province afin de venir en aide aux populations dans le besoin. Et du côté M23, ils ont obtenu leur autorisation à pouvoir effectuer ce convoi humanitaire. Mais encore une fois, ces sociétés civiles jugées être proches pour sa proximité aux acteurs qui enveniment la situation dans le territoire d'Uvira, différents factions Wazalendo, qui s'y sont encore opposés. Comme résultat, on voit que ce convoi humanitaire n'a plus eu lieu. Et du coup, pour des personnes qui vivent, surtout les populations toutes qui étaient déjà isolées dans les zones comme Aminembwe, qui était déjà une prison à ciel ouvert, parce que Aminembwe, la vulnérabilité dans laquelle vivaient déjà ces populations risque de s'accroître.
C'était Pacifique Mayala au micro de Radio Mendeleo. Et la société civile Force Vive du Sud-Kivu exige sa participation dans les différentes initiatives de paix en cours pour y porter la voix de la population. Et selon Maître Néné Bintou, présidente du bureau de coordination de la société civile, plusieurs initiatives de paix sont menées au niveau interne et à l'international sans associer la société civile et l'Assemblée nationale qui est l'émanation du peuple. Elle fustige aussi la lenteur du processus de Doha et le silence autour des travaux depuis que les délégations de l'AFCM 23 et du gouvernement de Kinshasa y sont retournées, ainsi que le blocage dans la mise en œuvre de l'accord de Washington. Pour Maître Néné Bintou, cette attitude ne rassure pas, surtout que sur les terrains, les armes ne se sont pas tues, d'où le plaidoyer de faire entendre également la voix de la population à travers la participation de la société civile.
La société civile constate également que rien ne filtre du dialogue de Doha où les délégations du gouvernement de la République démocratique du Congo, de la coalition FCM 23 et du Rwanda viennent de faire plus de 2 semaines sans issue, et cela pousse la société civile du Sud Kivu à s'interroger sur l'efficacité de la médiation menée par le Qatar. Le processus de Washington semble également en panne, ainsi que celui de Luanda, Nairobi. Eu égard à ce qui précède, la société civile ne cessera jamais d'exiger sa participation aux différentes initiatives de paix en cours, car tant qu'elle sera toujours exclue, la voix du peuple ne sera pas considérée dans les différents accords qui seront signés. Cela vaut également pour le Parlement qui représente le peuple et qui est mis hors cause dans toutes les initiatives actuelles pour la recherche de la paix.
C'était Maître Néné Bintou au micro de Radio Mendeleo.
Chaque jour, elle se mobilise pour offrir à ses auditeurs et auditrices des informations à temps réel. Notre principale détermination, c'est de vous servir. Nous, c'est la Radio Mendeleo. Plus et mieux pour et avec ses auditeurs.
La suite de ce radiojournal. La campagne de vaccination contre la poliomyélite vient d'être lancée officiellement dans la province du Sud-Kivu. Ainsi, les parents et les gardiens des enfants sont priés d'accueillir les vaccinateurs qui passeront des porte à porte pour administrer le vaccin aux enfants dont l'âge varie entre 0 et 5 ans dans toutes les 34 zones de santé que compte la province du Sud-Kivu. Au cours de la cérémonie de lancement, le médecin coordonnateur provincial du programme élargi des vaccinations au site Kivu, Joseph Matundanya, a demandé aux parents et aux gardiens des enfants de ne pas priver les enfants de cette opportunité qui renforce leur protection contre la poliomyélite. On écoute à ce sujet le docteur Joseph Matundanya, médecin coordonnateur provincial du programme élargi des vaccinations au site Kivu.
Nous avons lancé la campagne de vaccination contre la poliomyélite. Cette campagne concerne toute la République démocratique du Congo, c'est-à-dire dans les 26 provinces, et en particulier dans les 34 zones de santé de la province du Sud. Nous espérons que toute la population va adhérer à la vaccination des enfants de 0 à 5 ans. La campagne sera organisée pendant 3 jours, avec la possibilité d'avoir 1 ou 2 jours de récupération des enfants qui pourront rater l'activité. Le message à lancer à la population, c'est demander que toutes les familles et après tous les enfants pour prendre le vaccin. Parce que le vaccin est important pour la prévention de l'éventuelle maladie des poliomyélites qui pourrait attaquer les enfants. C'est organisé dans ce cadre pour qu'on puisse prévenir la maladie de la poliomyélite.
Le lancement officiel de la dite campagne de vaccination est intervenu dans chacune des 34 zones de santé que compte la province du Sud Kivu en présence des partenaires intervenant dans le domaine de la santé. Et signalons que la vaccination ira du 11 au 13 septembre 2025 sur toute l'étendue de la province du Sud Kivu et les vaccins seront administrés gratuitement aux enfants. Et en l'espace de 3 jours seulement, 23 cas de choléra dont un décès ont été enregistrés dans l'aire de santé d'Irangira, un sous-village de Kajutu situé dans le groupement d'Irambi-Katana en territoire de Kabaré. L'alerte est de Vanessa Malunga, infirmière titulaire du poste de santé d'Irangira dans un entretien avec Radio Mendele aujourd'hui 11 septembre 2025. Plus de détails avec Omer Moudekereza.
Celle-ci indique que ce sous-village enregistre 7 à 8 cas par jour. Et la seule voie pour transférer le malade à l'hôpital général de référence Fomila Katana reste le lac Kivu, dans des pirogues en bois, car l'accès par voie routière est limité. Vanessa Malunga indique que la personne décédée est une mère de 22 ans qui a été transférée à la Fomila Katana, où elle a rendu l'âme, malheureusement, après avoir contaminé un de ses enfants, avec qui elle était dans la pirogue, en partance pour les soins. L'infirmière titulaire du poste de santé d'Irangira, quand une propagation à grande échelle, car sa structure fait face à un manque criant d'intrants, autant sur le plan préventif que sur le plan curatif, d'où l'appel à une intervention urgente des autorités sanitaires et tous ceux qui interviennent dans le secteur des loups. Hygiène et assainissement, Vanessa Malunga est au micro de Radio Maindeleo.
Irangira,
Irangira, c'est le sous-village du village Kajuchu où les cas de choléra sont enregistrés. Déjà dans 3 jours, nous avons enregistré 23 cas. Les médecins sont présents et mobilisés pour prendre le malade en charge. Mais il n'y a pas d'intrants autant sur le plan préventif que curatif. Que les autorités sanitaires, politiques ainsi que les personnes de bonne volonté interviennent pour sauver les habitants des cas du
Kajuchu.
De son côté, Enoch Nachea, défenseur des droits humains dans le village de Kajuchu, veut voir les organisations humanitaires intervenir dans la construction et ou entretien des adductions d'eau et bornes et fontaines afin que les populations ne fassent plus recours aux eaux du lac et autres sources non entretenues.
La commune d'Ibanda a contribué au financement de plusieurs projets de développement, notamment la construction d'une borne fontaine, des escaliers et des ponts dans différentes avenues. C'est ce que fait savoir le bourgmestre adjoint de la commune d'Ibanda, Hawakujimana Kanane Jonathan, dans un rapport rendu public 30 jours depuis qu'il assume l'intérim du bourgmestre de cette entité. Plus de détails avec Expedi Kialou.
Dans un point de presse tenu ce jeudi à son cabinet, le bourgmestre ad intérim Dibanda fait savoir que 4 axes prioritaires ont constitué son action pendant les 30 derniers jours. C'est notamment la sécurité, l'assainissement, le développement et le social. Au niveau de la sécurité, 2 armes AK-47 ont été récupérées grâce au renforcement de la collaboration entre la population, les cadres des bases et les autorités politico-militaires, fait savoir le bourgmestre A.I. Dibanda. La commune a amené, dit-il, la population à participer activement aux travaux communautaires sans relâche. Les efforts ont été concentrés à la place de l'indépendance, le tronçon Rudouvira, essence major Vangu, Niaouera, Panzikamagema, la frontière Ouzizi 2, quartier latin et Irambo, où le curage du collecteur Louziba est en cours en amont et en aval. Notre source fait savoir que selon les moyens disponibles, la commune a participé au projet de développement communautaire en rendant disponible 180 sacs de ciment. Le bourgmestre ad intérim de la commune d'Ibanda, Akwizimana Kanan Jonathan.
Nous avons appuyé la construction des escaliers aux endroits suivants. Yamba 1er, nous avons donné 20 sacs de ciment. ISGA, 4 sacs. Molengeza, 20 sacs. Paysage, 10 sacs. ISP, 10 sacs. Ruzizi 2, 10 sacs. KSNLD, 6 sacs. Molumemunene, 4, 10 sacs de ciment. Et la construction des ponts. Le pont Molengeza 1er, 65 sacs de ciment. Pont de l'avenue Ruzizi, 10 sacs. Pont de Casarone, 10 sacs. Pont avenue SGA, 4 sacs. Et l'appui à la construction d'une bonne fontaine à Mokoupe avec 5 sacs de ciment.
Ce dernier rappelle également que la maison communale d'Ibanda a été réhabilitée et le véhicule anti-incendie a été remis en service après plusieurs mois d'inactivité à cause d'une panne. Dans la foulée, une équipe de protection civile a été mise sur pied pour répondre aux besoins de la population en cas de détresse due aux catastrophes, ajoute notre interlocuteur. Au niveau des perspectives d'avenir, le bourgmestre ad intérim d'Ibanda vise à renforcer la collaboration avec la police pour lutter contre les marchés, lavages et parkings pirates, en plus de sa lutte contre les constructions anarchiques.
Les habitants de la commune de Bagira sont appelés à s'approprier les travaux communautaires afin que leur entité continue à être propre. L'appel du bourgmestre de la commune de Bagira est sous l'FCM 23 Sumbu Socrate et dans un entretien avec Radio Mandelo jeudi 11 septembre 2025. L'autorité communale explique qu'il est possible que cette entité reflète une image de propriété dans son entièreté si tout le monde s'y implique. Au sujet du manque d'eau potable dans certains quartiers de sa commune, Sumbu Socrate dit être en contact permanent avec la régie des eaux afin que l'eau soit rétablie le plus tôt possible et appelle ses administrés à la patience. Le bourgmestre de la commune de Bagira, Sumbu Socrate.
Notre commune ne sera jamais le royaume des déchets et nous travaillons pour que la propriété fasse la une. Malgré cela, nous avons aussi les problèmes d'eau. La régie des eaux a connu une panne et nous sommes en train de causer avec les responsables pour que notre commune soit approvisionnée en eau potable. Vous savez que sans eau, on ne peut pas vraiment travailler très très bien. Tout est handicapé à cause de la pénurie d'eau. J'appelle vraiment les responsables de la régie des eaux pour pouvoir s'impliquer dans cette question pour que nous puissions trouver une solution. Pour ce qui concerne les sécurités, fermons palais. Plusieurs bandits ont été maîtrisés. On a vraiment touché les points chauds, la brasserie, dans plusieurs quartiers, Nyakavogo, Lumumba. On a fait vraiment le travail. Nous continuons les patrouilles nocturnes et diurnes. Nous avons envoyé nos gens sur terrain pour maîtriser la question des tiriri. Les jeunes dits Kizazi Chanyoka, commandeur et les autres, ils sont en train d'être traqués sans pardon ni pitié.
Au sujet de la sécurité, notre source annonce que les éléments de l'ordre sont déployés dans des coins en proie à l'insécurité pour traquer tous les bandits qui insécurisent la population dans la commune de Bagira. Et les élèves de l'école primaire Bouchadou, une école conventionnée protestante sous la gestion de la 5e CELPA située dans le groupement de Bourralé en territoire de Walungu, n'ont toujours pas accès à leur école nouvellement réhabilitée grâce au financement du Fonds social de la République. Plus de détails avec Alain Kabika.
Alors que l'école est déjà achevée et prête à accueillir les élèves dans de bonnes conditions, des sources de la société civile et des enseignants contactés indiquent que les fournisseurs des matériaux de construction de la dite école a refusé tout accès sous prétexte qu'il n'a jamais été payé par l'entreprise avec laquelle il avait contracté. Bien plus, alors que l'année passée, les élèves étudiaient dans des bâtiments provisoires en planches construits dans la concession d'un privé, les propriétaires y a également déguerpi l'école, ce qui fait que les enfants sont à la maison depuis la rentrée scolaire 2025-2026. Plusieurs fois approchés pour des négociations afin d'autoriser l'accès aux nouvelles salles de classe construites, les fournisseurs des matériaux de construction a toujours réservé une fin de non-recevoir, indique un défenseur des droits humains de la place. Deux semaines après la rentrée scolaire, la société civile locale à Bourale invite les autorités compétentes du secteur éducatif et le partenaire qui ont financé les projets à intervenir dans l'urgence afin que les élèves de l'école primaire Bouchadou débutent aussi les études comme d'autres élèves au pays. On écoute à ce sujet Joseph Babouiné, président de la société civile dans les groupements des Bouralés.
Pour cette année, il a fallu qu'ils intègrent leur propre bâtiment, mais malheureusement, ce fournisseur les a refusé l'accès. Et ça fait des semaines que les enfants n'étudient pas. Le chef d'établissement a essayé de prendre langue avec le fournisseur. Celui-ci refusa d'ouvrir les salles. Jusqu'aujourd'hui, ils commencent à vivre à Bukavu. Le bâtiment est là, les enfants à la maison, ils ne savent pas accéder.
Pour des défenseurs des droits humains de la place, il est anormal de sacrifier l'avenir des centaines d'élèves pour la cause d'un seul individu, d'où l'appel à agir à temps en faveur des parents, élèves et enseignants de cette école.
La revue de presse, Radio Mindélé au Cap, vous décrypte et vous présente les nouvelles des journaux paraissant à Bukavu et dans la capitale.
L'impraticabilité de la route nationale numéro 5 suite aux pluies diluviennes qui s'y sont abattues et les verdicts attendus pour le procès Joseph Kabila font partie des sujets commentés par la presse jeudi 11 septembre 2025. Une revue de presse signée Hélène Bougiriri.
Débutons avec les souverains libres qui parlent d'une dizaine de camions qui sont bloqués depuis plus d'une semaine dans les escarpements d'Ngomo suite au délabrement très avancé de la route. Selon les témoignages d'un chauffeur rencontré par ces médias, les pluies diluviennes ont emporté les ponts de fortune érigés dans les routes de déviation dans la plaine de la Ruzizi, ce qui fait que le trafic Kamanyola Uvira devient de plus en plus difficile. Et de préciser qu'il est actuellement difficile de quitter Uvira le matin et espérer arriver à Bukavu dans moins de 7 heures. Radio Okapi parle quant à elle de l'inspecteur général au ministère de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté qui a réceptionné le 5 septembre 2023 les premiers lots de bulletins imprimés de valeur pour l'année scolaire 2024-2025. Selon les comptes X du ministère de l'Éducation, ces bulletins et autres pièces scolaires sont déjà disponibles. Le processus de dispatching des cartons de ces pièces scolaires au niveau maternel, élémentaire, des cycles terminal de l'éducation des bases et secondaire pour leur acheminement dans un premier temps aux provinces éducationnelles de Congo central et de la ville de Kinshasa, notamment les provinces éducationnelles de Mo-Amba, Changu, Lukunga, Funa et Plateau, est en cours. Il s'est dénoté que l'année scolaire 2024-2025 s'est clôturée sans l'octroi des bulletins aux parents d'élèves sur toute l'étendue de la RDC, un acte qui a suscité des réactions dans l'opinion. Clôturons cette revue de presse avec la haute cour militaire qui va prononcer son verdict vendredi 12 septembre dans l'affaire mettant en cause l'ancien président de la RDC, Joseph Kabila. C'est ce que renseignent les greffes de cette haute juridiction, rapporte actualité.cd. Le ministère public avait requis lors de l'audience du 22 août dernier la peine de mort contre l'ancien président de la RDC et demandé au juge d'ordonner la mise sous séquestre ses biens, sa condamnation aux frais, à la contrainte par corps, ainsi que son arrestation immédiate, rappelle le portail. L'ancien président est poursuivi pour une série d'infractions particulièrement graves, participation à un mouvement insurrectionnel, crime contre la paix et la sécurité de l'humanité, homicide intentionnel par balle, trahison, apologie, viol, torture, déportation et occupation par force ouverte de la ville de Goma. Détail 7 sur 7.cd. Lors de l'audience du vendredi 22 août dernier, rappel MediaCongo.net, le ministère public représenté par l'auditeur général avait requis la peine de mort ouverte depuis plusieurs semaines, fait remarquer Actu 30.cd. Ce procès a tenu en haleine l'opinion nationale et internationale en raison de la stature de l'accusé et des enjeux politiques qui y sont liés.
Un communiqué dans ce radiojournal, le bureau d'enregistrement et de développement BED, en sigle qui est une structure officielle, rappelle à tous les opérateurs économiques de la province du Nord-Kivu que les programmes d'enregistrement des entreprises continues. Ainsi, doivent être enregistrés tous les opérateurs économiques fonctionnant dans les différents secteurs, notamment le transport, le commerce, l'industrie, les ONG, la santé, les services, l'agriculture, les pétroliers, l'éducation, les mines, finances, églises ainsi que les ASBL. Rappelons que les motos, les taxis-voitures, les bus et minibus, les véhicules privés, les camions, les bateaux et canons rapides doivent également se faire enregistrer. Notez bien, n'attendez pas que vous soyez déniché par le contrôle. Et pour toute autre information, appelez au numéro +243 84 90 98 277, adresse avenue Patrice Emery Lumumba, dans le bâtiment de la SONAS. Et c'est la fin de ce radio-journal qui a été présenté par Sosten Virali et mis en onde par Alain Zar. Restez toujours branchés sur les antennes de votre radio.